Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast La Parole aux orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice, et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui, je reçois Laurine. Bonjour Laurine.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices ?
Oui, alors je m'appelle Laurine Franceschi, je suis orthophoniste depuis 2014, donc ça va bientôt faire 10 ans cet été déjà. Je travaille actuellement, du coup, je travaille exclusivement en libéral dans la région toulousaine.
Ok, super. Et pour le dire tout de suite, nous on se connaît, Laurine. Tu as été ma maîtresse de c'était en cinquième année, je crois.
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Et ensuite, je t'ai remplacée à l'hôpital et à ton cabinet. Donc, on se connaît un petit peu.
Oui, tout à fait. C'est clair.
Est-ce que tu peux bien nous dire comment t'es arrivée en orthophonie, toi ?
Oui, alors, en fait, j'ai toujours voulu travailler dans l'humain quand même, enfin, avec des humains. Je cherchais un petit peu, je me suis dit un coup un site, un coup plutôt pédopsie, enfin des trucs vraiment très divers. Après, j'avais pensé au milieu du handicap, enfin voilà, j'ai toujours voulu ça, mais sans vraiment trouver quelque chose qui me branche vraiment. Et puis un peu par hasard, un jour j'étais en train d'attendre chez mon médecin généraliste dans la salle d'attente, j'ai entendu une bribe de séance d'orthophonie, secret médical, bonjour. Et en fait, c'était une personne âgée. J'ai été surprise de... Je ne savais pas du tout que les orthophonistes recevaient des personnes âgées à l'époque. J'étais au lycée, hein, je devais être en seconde ou en première. Mmh. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et puis, je suis allée rapidement voir les études et tout sur Internet après. Mais en fait, tu vois, je me suis un peu lancée là-dedans sans vraiment... En fait, je pense que j'ai choisi ce métier sans vraiment du tout savoir ce que c'était, tu vois. Parce ouais. que quand je me rends compte aujourd'hui ce que c'est, j'avais pas du tout cette image-là du boulot à l'époque. Et voilà, je me suis lancée là-dedans. Et puis finalement, j'ai fait un an de prépa à Aix-en-Provence. J'ai passé plusieurs concours. C'était l'époque où il fallait se déplacer dans toute la France, comme tu as compris aussi.
C'est ça.
Et en fait, je m'étais donné 2 ans et j'ai eu la chance d'avoir, dès la première année, Toulouse et Nantes, et j'ai choisi Toulouse.
Ok, voilà. Ah, je ne savais pas que tu avais eu Toulouse et Nantes, moi c'était pareil aussi.
Ah, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai que c'était deux concours qui se ressemblaient un peu quand même en termes ouais. d'épreuves, et je pense que du coup ça rameutait un peu les mêmes profils.
Ouais, ouais. Ok, super. Et alors, du coup, quand tu as commencé à faire tes études, donc c'était pas ce à quoi tu t'attendais sur les types de pathologies, etc. au final?
En fait, si, quand même, au fur et à mesure, après en prépa, on avait quand même commencé. Et puis moi, après, j'avais quand même essayé de rencontrer des orthophonistes avant de rentrer à l'école d'ortho. Je me suis dit que ça pouvait toujours appuyer mon oral au concours. Donc, j'avais rencontré une ou deux orthophonistes. C'était des mamans de copains, tu vois, qui avaient bien accepté de me recevoir. Pour un ou deux jours comme ça, enfin voilà. Et en fait, petit à petit, ça s'est affiné. En prépa, j'ai découvert la neuro, en fait. J'avais lu un bouquin de Philippe Van Écoute, Langage blessé. Je m'étais dit, waouh, moi, je veux trop faire ça. Je veux trop faire de la neuro et tout. Au départ, la neurovasculaire, ça me tentait vachement. Et puis, en fait, après, évidemment, pendant les études, on découvre un peu tout et en même temps, je trouve que on découvre encore plus après quoi. En fait, j'ai l'impression. Ouais. Enfin, pour moi en tout cas, j'ai découvert encore plus de choses après. Voilà, au fur et à mesure des demandes des patients, etc.
Et surtout que toi, tu as fait des choses un peu spécifiques, pas forcément.
Enfin, pas forcément que langage écrit, langage oral qu'on voit beaucoup en cours, donc des choses peut-être dont on entendait moins parler en cours, on rencontrait moins les patients pendant les stages. Donc du coup, toi, quand tu as
Oui.
commencé à travailler, c'était différent quoi.
Oui, et puis même au cabinet, du coup, j'ai, enfin, je pense que chaque orthophoniste qui s'installe a parfois des demandes un peu inattendues quand même. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que, tu vois, t'as tous tes petits cours et puis un coup, tu as, je ne sais pas, un truc, tu vois, par exemple, la rééducation de Tuber, ben, t'en as pas souvent et finalement, dans tes cours, t'as pas grand-chose et le jour où tu as quelqu'un qui arrive, ben, tu es là, oui, on va voir ce qu'on va faire. Voilà. Ce genre de trucs, tu vois, des trucs en fait qui sont pas forcément, dont on nous a parlé, mais qu'on n'a pas forcément vu beaucoup à la fac, voilà.
C'est clair. Et alors, qu'est-ce que tu as fait toi comme type d'exercice quand tu es sorti des études?
Alors, c'est là que le vrai sujet commence. En fait, j'ai eu, donc moi, j'ai fait 4 ans hein, d'orthophonie. Lors de ma dernière et quatrième année, j'ai eu la chance de faire un stage en cancérologie, donc à Toulouse. C'était un centre de lutte contre le cancer privé au centre-ville de Toulouse. Donc, j'ai eu la chance de faire ce stage auprès de Jean-Claude Farine, qui était à l'époque le seul orthophoniste dans cet institut. Et en fait, ça s'est super bien passé, alors qu'au départ, je m'étais inscrite à ce stage en me disant, oh là là, allez, il faut faire des heures de déglutition. Ben, vraiment, hein, je vais être honnête, j'ai vraiment pris ce stage en me disant, bah, au moins, ça validera tout d'un coup, c'est pas mon truc. Enfin, tu vois, vraiment, le destin fait que des fois, on est surpris. Et en fait, mon stage en neurovasculaire juste avant, ce n'était pas super bien passé. Donc, j'étais un peu déçue du milieu hospitalier et j'y allais un peu à reculons. Et en fait, dès le premier jour, ça s'est super bien passé. Le feeling avec mon maître de stage a vraiment été super. Et je me suis éclatée. Donc, du coup, ça s'est vraiment super bien passé. Mais moi, je ne pensais pas du tout travailler là parce que de toute façon, enfin, il n'y avait pas de poste. Enfin, je ne m'étais pas du tout posé la question. Et en fait, 2 mois après la fin de mon stage, mon maître de stage m'a rappelé. En fait, l'institut a déménagé dans un truc plus grand. Maintenant, c'est vraiment un institut universitaire où ils font de la recherche, etc. Ils ont regroupé le CHU et le privé. Et en fait, bah, ils ont eu besoin de quelqu'un d'autre. Et ils lui ont demandé de choisir quelqu'un pour venir travailler à ses côtés. Donc, il m'a rappelé. Et donc là, j'étais vraiment enfin, hyper surprise. Et enfin, tu vois, c'est le genre de truc où j'avais hyper peur. En même temps, j'avais hyper peur. En même temps, je ne pouvais pas dire non. Et du coup, j'ai dit oui. Voilà, j'ai dit oui. Et donc, j'ai été diplômée en juin. Et j'avais déjà prévu un voyage en juillet, mais j'ai commencé en août, quoi, direct. Enfin, tu vois, vraiment, mon premier jour d'orthophoniste a été en cancéro. Et en plus, ce fameux maître de stage, qui était maintenant mon collègue, était en congé. Donc, j'étais avec sa remplaçante, qui était là une fois de temps en temps. Donc, c'était un peu sport, ouais. C'était un peu sport.
Ah ouais, ah j'avais pas cette notion que tu avais commencé, qu'il n'était pas
Ouais.
forcément là au départ. Waouh,
C'est ça.
surtout en
Bah, je
cancer.
pense que lui, il était hyper en confiance, en fait. Alors, après, j'étais quand même venue avant qu'il parte en congé. En rentrant de voyage, j'étais quand même revenue, je sais plus, un ou 2 jours ou je sais plus pour qu'il me remontre un peu tout et tout ça, bien sûr quand même. Mais bon, ouais, les premiers jours où j'ai vraiment travaillé avec mon badge et tout, j'étais un peu, enfin, j'étais pas seule puisqu'il y avait sa remplaçante, mais c'était vraiment, ouais, c'était un peu, voilà,
Ça
c'était
devait être
l'aventure,
particulier, en effet.
l'aventure, voilà.
Et donc, du coup, c'était en temps plein ou en temps partiel que tu as
Non,
commencé
c'était
là-bas?
à mi-temps. En fait, exactement ce qui s'est passé, c'est que pendant ce même stage en cancéro, j'ai rencontré mon actuelle associée. En fait, on s'est rencontrés en stage. Elle était à l'école de Poitiers, mais elle était de la région. Et en fait, elle avait envie de s'installer, moi aussi. On n'avait pas forcément envie d'une collab, ni d'un remplacement. Et puis finalement, on s'est un peu. Bon, tu la connais aussi, puisque tu as travaillé avec elle. Tu vois un peu comment elle peut être aussi. On était toutes les deux un peu motrices, quoi, on va dire. Donc, on s'est un peu embarqué dans un truc. Et on s'est dit, bah, viens, on s'installe en fait ensemble. Et donc, on avait quand même convenu que le temps de lancer la patientèle, on ne savait pas trop combien de temps ça pourrait prendre, qu'on aurait chacune un mi-temps en salariat pour être sûre de pouvoir payer les charges, etc.
Oui.
Donc, elle avait trouvé un truc et puis moi, je me suis. Eh ben, en fait, moi, Jean-Claude, enfin, mon maître de stage m'a appelé, du coup, donc, je n'ai pas eu besoin de chercher. Et en fait, à la base, je m'étais dit, bon, bah voilà, ça me fera mon mi-temps. Après, très vite, évidemment, je me suis dit que je resterais, mais pour le coup, au départ, c'était ça. Donc, en fait, j'ai commencé au mois d'août exclusivement à l'hôpital et on a ouvert le cabinet en septembre. Donc,
D'accord, ok,
c'est
comme
quand
ça,
même
ça te
passé
laissait.
rapide.
Ouais, c'est clair. Ça t'a laissé au moins le mois d'août pour du coup commencer tes premiers pas en tant qu'ortho et après l'ouverture d'un cabinet en plus un mois plus tard, quoi.
Ouais, c'est ça. C'était assez intense.
Ouais, j'imagine. Et au final, en combien de temps il s'est rempli votre cabinet? Parce que peut-être ça peut rassurer aussi les personnes qui se lancent tout de suite de savoir combien de temps ça peut prendre un petit peu.
Oui, alors bon, du coup, il faut savoir que c'était il y a déjà 10 ans et que je suis pas en centre-ville, je suis en région toulousaine. Enfin, voilà, c'est quand même, c'est pas la campagne non plus, mais c'est un milieu, on va dire, semi-rural quand même. C'est pas non plus la pleine ville. Mais du coup, ça a été hyper rapide en 3 mois. En 3 mois, en fait, au début, on était contente, on comptait les patients, on se partageait les pathologies pour qu'on ait chacune. Enfin, vraiment, on était hyper. Et puis, en fait, il me semble qu'au mois de janvier déjà, je travaillais parfois jusqu'à 20 h et que je me suis dit là, il va falloir que je dise non aux gens qui appellent. En fait, tu vois, j'avais pas anticipé qu'un jour il faudrait que je dise non aux gens. En fait, aussi, on n'avait pas été
Ouais, tu te rendais pas compte.
super bien accueillis par les deux autres orthos qui étaient là, qui avaient un peu peur qu'on leur prenne leur boulot. Du coup, elle nous avait un peu fait peur et on s'était quand même lancé, mais tu vois, on avait un petit truc de se dire, et si, tu vois, et si en fait on se plante, quoi. Voilà. Bon, on était en location et tout, c'était pas
Ouais.
dramatique, mais bon, quand même, après, retrouver un local et tout, c'est quand même pas facile, voilà. Enfin, j'en sais rien, en tout cas, on n'a pas eu à le faire, mais c'était pas. Voilà. Donc, du coup, on était super contentes, c'est parti très vite. Et tu vois, Pauline, mon associée, elle n'a pas eu besoin de garder son mi-temps, elle l'a gardé à peine 1 an. Elle a fait une année scolaire, en fait, je crois, à peu près, il me semble.
Oui.
Hein. Si je dis pas de bêtises, et ensuite, elle est passée à temps plein, en fait, au cabinet.
Oui, facilement avec les demandes que vous aviez du coup.
Ah oui, bah oui, en fait, oui. Parce qu'en plus, quand tu es dans une petite ville comme ça, bah, évidemment, tu n'as pas que les gens de la ville, tu as les gens des villes autour. Et puis, finalement, Toulouse n'est pas très loin. Donc, de temps en temps, voilà. Et puis après, c'est vrai que quand tu commences, enfin, moi, je travaillais donc à l'hôpital dans un truc hyper spécifique. Donc, mon nom, finalement, a été vite connu. Donc, j'ai eu des demandes aussi. Spécifique en fait des ORL du coin qui petit à petit adressaient vers chez moi en fait voilà
Oui.
donc
Je témoigne, le téléphone sonnait beaucoup.
ouais c'est clair.
Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe les débuts d'exercice quand tu travailles en mixte? Parce que c'est vrai que je crois pas qu'on ait eu beaucoup de témoignages sur le mixte en tout début d'exercice. Donc, ça m'intéresse.
Oui, alors c'est vrai que, alors moi j'ai adoré le mixte pour un début de carrière parce que je trouve ça hyper stimulant. Voilà, c'est mon avis personnel, hein. J'ai trouvé ça hyper stimulant d'avoir ces changements de lieu, ces changements du coup de casquette aussi parce que quand même t'es pas la même orthophoniste quand tu, enfin voilà, moi j'ai en tout cas j'avais vraiment l'impression d'être deux orthophonistes différentes au cabinet et à l'hôpital. T'as la blouse à l'hôpital, t'as pas la blouse au cabinet. Enfin, il y a plein de trucs qui font que le côté, voilà, à l'hôpital, t'es en équipe, au cabinet, ben, même s'il y avait ma collègue, on a chacune nos patients, etc. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est cette richesse, en fait, d'avoir, en fait, ouais, plein de trucs différents dans la semaine, en fait. Et d'avoir vraiment une routine au cabinet qui était reposante parfois. Voilà, et plutôt de l'aventure à l'oncopole où tu sais jamais vraiment combien de patients tu vas voir, est-ce qu'on va t'appeler ou pas, est-ce que, enfin voilà, ça j'aimais bien. Après, il faut que je précise quand même que j'étais en fait au départ, j'étais libérale à l'oncopole aussi,
Ah, d'accord.
j'étais vacataire en fait, et du coup, alors bon, je vais pas rentrer dans les détails, j'étais pas vraiment rémunérée à l'acte.
Ouais.
J'étais quand même rémunérée comme une salariée, mais c'était déclaré en revenus libéraux.
D'accord.
Voilà. Donc, l'avantage quand même, c'est que bah, je faisais mes horaires. Je n'avais pas vraiment de supérieur hiérarchique pour m'imposer des horaires.
Oui.
Si je prenais des congés, j'avais juste à me faire remplacer et c'était OK. Ou alors on s'arrangeait avec mon collègue et puis c'était, voilà, c'était OK. Au début, c'était un peu comme ça. On faisait un peu notre petite vie de vacataire. J'ai été salariée un peu plus tard, voilà, un peu par force d'ailleurs. Mais bon. Et en fait, au début, ça m'allait bien en fait de choisir à quelle heure j'arrivais, à quelle heure je repartais, etc. La première année, je suis même venue travailler à l'Oncopole un jeudi de l'Ascension. N'importe quoi. Tellement j'étais dans le truc, tu vois, voilà, le truc que je ne ferai évidemment plus du tout aujourd'hui. Mais j'étais tellement. D'ailleurs, mon collègue, il m'avait dit, mais pourquoi tu fais ça?
Pourquoi t'es là?
Je sais pas, j'avais envie de d'être vraiment pleinement disponible pour ça et j'étais vraiment à fond quoi. À fond, à fond. Après, c'était fatigant, mais à l'époque, bah, j'avais pas d'enfant ni rien.
Oui.
Donc, c'est vrai que ben, j'avais vraiment envie. En fait, je pense que beaucoup, beaucoup d'orthophonistes sont dans le même cas. Quand on arrive à la fin des études, on a juste une envie, c'est de bosser quoi. On a la dalle. Et moi, j'avais vraiment ça. J'avais vraiment envie de travailler. Du coup, vraiment, la première année, c'était à fond les ballons. Et puis voilà, donc comment ça se passe? Bah, après, je pense que ça dépend de chacun. Moi, ça m'a stimulée parce que les fois où je m'ennuyais un peu au cabinet, bah, j'avais l'oncopole pour me stimuler. Les fois où à l'oncopole, c'était justement un peu speed, bah, j'avais le cabinet pour avoir. Quand je dis que c'est reposant, attention, je sais qu'il y a plein d'orthophonistes en libéral qui se reposent pas. Moi, c'était plus routinier au cabinet. J'avais un rythme, comme à l'époque, je prenais beaucoup des troubles des apprentissages. J'avais beaucoup de rendez-vous fixes avec des patients qui étaient toujours les mêmes aux mêmes horaires à cette époque-là. Donc, du coup, pour moi, c'était un peu plus reposant. Voilà. Après, voilà, je ne veux pas
Non,
que
mais
qu'on ait l'impression que le cabinet, c'est reposant. Voilà,
ouais.
comme dans
Mais c'est
mes.
vrai que je partage complètement ça. Ça me faisait cet effet aussi quand je te remplaçais. Parce que quand on arrivait à l'hôpital, on se disait, ah, est-ce qu'aujourd'hui je vais avoir 4 consultes, 11 consultes en 3 heures, je ne sais pas. Est-ce qu'on va devoir
Ouais.
m'appeler? Enfin, on n'en sait rien du tout. Et c'est vrai que du coup, quand j'arrivais au cabinet, il y avait vraiment cette routine en plus, tu vois, d'ouvrir le bureau. Enfin, comme c'est un cabinet qui est agréable en plus, qui est grand, tu vois. Enfin, il y avait tout le temps les mêmes routines de t'ouvres les volets, tu prépares un petit peu ton bureau, les patients arrivent, c'est toujours les mêmes, dans le même ordre. C'était pas non plus des patients qui étaient très, très compliqués. Enfin, il y avait pas de famille où vraiment tu te dis, oh là là, c'est
Oui, voilà.
l'enfer. Enfin, c'était quand même, ouais. Et du coup, je comprends ce truc de c'est plus routinier, plus reposant au cabinet. Enfin, ça se répétait, les gens étaient quand même super sympas, il y avait toujours des petites attentions, des petits cadeaux, enfin, ils étaient quand même choux, quoi. Et puis après, bam, tu retournes à l'hôpital et c'est hyper stimulant, mais par contre, tu sais pas ce qui va t'arriver, quoi.
C'est ça, c'est ça. Et moi, j'aimais bien, en fait, moi, ce que j'aimais à l'hôpital, c'était ce côté, tu mets ta blouse et puis tu es un peu la super-héroïne d'un jour, quoi, tu vois. Genre, il faut que tu sois hyper dispo, que tu répondes au téléphone. Enfin, voilà. Au début, vraiment, c'était vraiment ça qui me plaisait. Après, bah, petit à petit, j'ai fait mon petit trou aussi à l'hôpital. Et puis, j'ai commencé à vraiment avoir des super relations avec les équipes. Et vraiment, ouais, si vraiment je cherche, je peux te trouver un ou deux noms avec qui ça s'est pas super bien passé. Mais vraiment, dans l'ensemble, du directeur jusque dans les. Oui, bon, pas le directeur des ressources humaines, par contre, mais à part lui. Non, mais après, vraiment, du directeur actuel qui était à l'époque médecin, jusque vraiment aux hôteliers, aux infirmiers, enfin, les aides-soignants, les secrétaires, les personnes du self. Enfin, vraiment, je m'entendais avec tout le monde et puis j'avais l'impression de connaître tout le monde. Pourtant, c'est grand. Tu as vu que c'était grand. Mais j'avais l'impression de connaître tout le monde et puis vraiment, ouais, j'ai beaucoup aimé en fait travailler avec tous ces gens autour de moi. Et les patients là-bas sont vraiment. Donc, du coup, j'étais, pour préciser, en cancérologie ORL particulièrement. Et je trouve que c'est vraiment une population qui est particulière. Alors, après, sans vouloir faire de clichés, quand même, il y a de tout aussi dans les patients ORL. Hein. Il n'y a pas que le cliché du patient alcoolo-tabagique, etc. Mais. Il y a aussi des jeunes, il y a aussi parfois des adolescents, voire là même des enfants. Ça a été moins fréquent, mais on en a eu un ou deux. Enfin, et du coup, c'est vraiment une population hyper attachante. Enfin, moi, j'avais beaucoup d'affection pour mes patients de l'Oncopole et eux en avaient aussi pour nous, d'ailleurs. Et du coup, c'était vraiment chouette en fait d'être au cœur en fait du parcours de ces patients. Voilà, on était vraiment en fait, on avait vraiment un rôle presque parfois hein, de coordination quoi. Tu te rappelles, on faisait pas que de l'orthophonie quoi. En fait, on posait plein de questions aussi sur le moral des gens, sur voilà, pour pouvoir réadresser aussi en fait à d'autres soignants,
Oui.
aux sophrologues, à la psychologue, à la diététicienne, à la sexologue. Donc du coup, en fait, bon, après, dans chaque centre de lutte contre le cancer, il y a des protocoles qui sont différents, mais dans celui-ci, l'orthophoniste est vraiment présent du début à la fin. Donc on est vraiment présent de l'annonce des traitements. Donc on arrive vraiment juste après que le médecin a annoncé les traitements. On a une consultation avec le patient. Pour réexpliquer un petit peu sur le point de vue orthophonie comment ça se passe. Et puis après, on est présent vraiment pendant l'hospitalisation ou pendant les rayons et la chimio. Et puis après, on les revoit en consultation de surveillance. En fait, dès qu'ils voient le chirurgien ou le radiothérapeute en surveillance, on a une consultation avec eux. Alors, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, vu que j'y suis plus, mais en tout cas, c'était comme ça. Et en fait, les patients, souvent, aux médecins, ils posent des questions un peu plus techniques. Et puis, à nous, les orthophonistes, on était un peu plus ben, comme une figure d'attachement, un peu, en fait. On était un peu leur bouée, parfois, pour certains, de elle, je la connais, je vais pouvoir lui raconter un peu plus de trucs. Et donc, souvent, les patients, ils se confiaient sur plein d'autres choses, en fait, que l'orthophonie. Et moi, j'aimais bien ça aussi, même si au sein de l'Institut, pour le coup, il n'y avait pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Parfois, certains médecins auraient bien aimé alléger le nombre de consultations ortho parce que pensaient que c'était pas forcément à l'orthophoniste de faire ça, et en même temps, du coup, c'est à qui de le faire? T'avais la question. Moi, j'aimais bien ça. Je me sentais à ma place quand même. Voilà, à ma place de soignante en tout cas. Pas forcément que orthophoniste, mais soignante, voilà, de manière globale. Et voilà, c'était un chouette poste.
Et ouais, moi j'aimerais rebondir sur ce que tu disais sur le fait que tu connaissais tout le monde aussi. Et vraiment, pour le coup, enfin, pour avoir été avec toi en stage, c'est vrai. Dès qu'on passait quelque part, tu connaissais tout le monde. Et je trouve que ça, c'était vraiment une grande, grande force. Et moi, tu vois, c'est ce qui avait été un petit peu difficile quand je suis arrivée au début, parce que je suis arrivée en plus pendant la période Covid, où du coup, on
Ah
n'avait plus le
oui.
droit, enfin, ouais, c'était compliqué, et on n'avait plus le droit de se réunir, enfin, on ne pouvait pas manger à plus de 3 dans une salle, on se voyait tout le temps avec les masques, les équipes tournaient beaucoup, parce que du coup, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades, et du coup, enfin, c'est vrai que tu vois, je n'avais pas retrouvé la même chose, mais je sais aussi que c'est toi, ta personnalité et ta façon de faire qui a créé ce truc et que je trouve enfin hyper important. Et enfin si là il y en a qui nous écoutent et qui veulent faire du travail en équipe comme ça, enfin moi j'ai jamais vu une orthophoniste, tu vois, qui était autant intégrée dans une structure. Et je sais que ça vient pas de la structure là pour le coup, ça venait de toi parce qu'en fait c'est toi qui allais chercher les gens, c'est toi qui étais avenante avec eux, qui leur posais des questions. Et tu vois, moi je pense que je peux être un peu comme ça, mais pas autant que toi. Et donc du coup ça n'a pas marché autant. Mais
Non, mais après, enfin, c'est aussi parce que tu es arrivée vraiment dans une période compliquée. Enfin,
ouais,
voilà,
alors
je
la
pense
période
que
est pas.
n'importe qui, moi, je serais arrivée à cette période-là, ça n'aurait pas été la même non plus. Après, c'est vrai que j'en ai discuté récemment, du coup, de ça avec Jean-Claude. Il a un peu le même avis que toi. Ça me touche parce que bah, ça me fait plaisir, voilà, qu'on ait cette image de moi. Mais en fait, c'est vrai que aussi, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée, j'avais un peu le même âge. En fait, j'étais de la même génération que les internes de l'époque.
Ouais.
Et les internes de l'époque, c'était une bonne team, quoi. Ils étaient des fêtards et tout. Et en fait, à l'époque, on faisait pas mal de trucs à l'extérieur aussi. Les soirées de thèse, c'était des dingueries. Enfin, vraiment, c'était chouette. Et puis, tous les ans, il y avait une anesthésiste qui organisait une petite soirée pour tout le service de chirurgie. On se réunissait au moins une fois par an, tous, quoi, médecins, infirmiers, tout ça. Et en fait, ça aussi, ça soudait. Et puis, évidemment, moi, c'est vrai que je mangeais régulièrement au self avec des chirurgiens, etc. Parce qu'en fait, au tout début, comme avec Jean-Claude, on n'était que deux. Il y avait d'autres orthophonistes, mais plutôt du côté CHU. Et au début, on ne s'entendait pas super bien. Bon, c'était un peu compliqué, les relations. Mais bon, du coup, moi, j'étais à mi-temps, Jean-Claude, il était à mi-temps aussi, puisqu'il avait son cabinet à l'époque aussi.
Ah, j'avais oublié
Il
qu'il
était
était
en
à
mixte.
mi-temps.
Voilà. Et en fait, du coup, il y avait plein de jours où j'étais seule, en fait. Enfin, plein de jours. Il y avait certains jours où j'étais toute seule.
D'accord.
Et du coup, bah, le midi, moi, j'avais pas envie de forcément de manger toute seule. Donc, souvent, ouais, je sollicitais des médecins ou autres soignants pour déjeuner. Voilà, donc en fait, c'est ça aussi qui fait que toi, tu prends un café, tu discutes un peu des patients, mais petit à petit, tu discutes aussi de ton week-end, de ta famille, et puis voilà, ça crée des liens. Et après, en fait, moi, je trouve que le fait de connaître un peu la vie personnelle de tes collègues, ça renforce les liens pro. Moi, j'ai toujours pensé ça. Et d'ailleurs, en général, ça se vérifie de mon côté. Voilà, en général, quand je m'entends bien avec quelqu'un dans la vie perso, ben, j'ai plus de facilité à lui dire aussi même ce qui ne me va
Ouais.
pas en pro, quoi, de lui faire remarquer ben, là où je ne suis pas forcément d'accord, etc. Alors que quand c'est quelqu'un que je connais moins, ben, c'est moins facile, je trouve. Voilà.
Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que franchement, moi, j'ai vraiment remarqué ça et pourtant, j'avais fait d'autres stages en structure, etc. Et vraiment, enfin, c'est une force qui est incroyable et j'ai jamais vu une structure vraiment où les orthos étaient autant présents et autant sollicités. Et pas pour des choses qui n'avaient rien à voir avec l'orthophonie, parce que des fois, enfin, tu as des demandes dans d'autres sens, tu te dis, mais quoi? Et là, en fait, c'était
Oui.
toujours à propos et c'était super adapté. Et en fait, on s'en remettait vraiment à l'expertise des orthos. Et on n'était pas les sous-fifres des médecins, pas du tout. Et
Ouais.
ça, c'est
Alors là, pour le
impressionnant.
coup, ça, c'est vraiment Jean-Claude qui a vraiment fait un travail titanesque depuis son entrée. Parce que moi, quand je suis arrivée, ça faisait déjà, enfin, je sais pas, je vais te dire une bêtise, mais peut-être déjà 20 ou 25 ans qu'il était là. En fait, Jean-Claude, il faisait partie déjà des meubles. Enfin, non, c'est pas vrai. Enfin, meubles. Mais enfin, tu vois, il fait partie du truc depuis tellement longtemps. Et en fait, lui, il a vraiment bossé pour ça. Il s'est battu vraiment toute sa carrière pour que les orthophonistes aient une vraie place, qu'on ait des responsabilités. Et en fait, il a fait beaucoup de formations en interne aussi pour expliquer, ben voilà, quand il se passe ça, vous pouvez nous appeler. Quand il se passe ça, c'est pas nous, machin, etc. Après, maintenant, il est plus tout seul, évidemment. Hein. Et puis, après, petit à petit, heureusement, avec l'équipe du CHU, on a réussi à coopérer. Et aujourd'hui, il y a vraiment un travail d'équipe. Et puis, les orthophonistes sont tous salariés du même institut. Donc, voilà, on est juste une équipe. Il y a plus de deux et deux, voilà. Mais au final. Au final, oui, il y a eu un énorme boulot aussi pour faire sa place. Moi, là, pour le coup, je n'ai pas eu grand-chose à faire que juste de venir et de me mettre un peu dans le sillage de Jean-Claude. Après, on a toujours eu une façon de travailler qui était quand même assez compatible. On a tout de suite été très. En fait, on s'est toujours bien compris, en fait. Ça a été très facile de travailler ensemble. Voilà, moi il m'a appris beaucoup et du coup j'avais juste à, tu sais, à boire et en faire après mon. Non, mais c'est vrai, enfin voilà, c'est quand même quelqu'un qui est, je trouve, très généreux dans sa façon de transmettre. Et du coup, quand tu as quelqu'un en face qui a faim comme ça, ben, tu as juste un échange. Ben, tu vois ce que je veux dire? Ça se fait tout seul, quoi. Voilà, ça se fait tout seul. Et après, j'ai quand même eu besoin de faire un peu ma place, effectivement, et de gagner la confiance des médecins, etc. Parce qu'effectivement, je suis arrivée, j'avais 24 ans. J'avais jamais travaillé encore, ça se voyait, je pense. Voilà, j'étais vraiment une toute jeunette. Voilà, j'avais ma bonne humeur. Et puis, tu vois, je pense qu'il y en avait qui devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle est toujours contente, tu vois. Et en fait, petit à petit. Je pense qu'ils ont vu que oui, que j'avais des compétences, mais c'est vrai qu'au début, ce n'était pas évident. Et puis, c'est un endroit où c'est les orthophonistes qui font passer les radios de déglutition sous supervision d'un médecin, mais c'est quand même eux qui les font et qui les interprètent et qui donnent le résultat aux médecins. Et les médecins, ils n'ont pas tout le temps de vérifier. Voilà. Donc, c'est quand même une grosse responsabilité de dire un patient peut remanger ou pas. Et c'est vrai que souvent, c'est les orthophonistes qui disent qu'on peut enlever la sonde nasogastrique, par exemple. Tu vois, c'est quand même une responsabilité énorme. Et au début, j'avais du mal, moi, à prendre ces décisions-là. Donc, soit Jean-Claude était là et je demandais son avis, souvent, on peut discuter, voilà. Soit s'il n'était pas là, ben, j'essayais de trouver un ORL qui m'aide à prendre la décision. Au début, j'y arrivais pas. Voilà. Parce que c'était trop pour moi. Voilà. Ce qui était le plus difficile, je me rappelle. c'était même dans l'autre sens. C'était de dire on demande une gastrostomie. Parce que la sonde de gastrostomie, dans mon idée, au départ, aujourd'hui, c'est plus du tout ce que je pense, mais il y avait une espèce de sentence irrévocable, tu sais. Genre, on te met la sonde de gastrostomie et tu l'auras, on te l'enlèvera plus. Enfin, tu vois, j'avais cette impression de pérennité, en fait. J'avais l'impression de condamner le patient, tu vois, un peu. Et du coup, j'arrivais pas à me décider sur ça. J'y arrivais pas, vraiment. Donc, du coup, je tournais autour du pot. Voilà, voilà. Bon, après, voilà, ça, c'est vraiment... je trouve que quand on est... L'avantage d'être dans une structure comme ça, c'est que tu fais tellement des choses quotidiennement qui sont très techniques et très spécifiques que tu apprends hyper vite.
Ah, c'est un truc.
Voilà, toi, je ne sais plus combien de mois tu m'as remplacé, mais quand même un moment, parce que entre le Covid, entre ma grossesse avant et mon congé mat, je pense que tu es restée au moins 6 ou 8 mois.
C'était 10 mois.
10 mois, ouais. Tu vois, c'est... Et du coup, j'imagine que tu as dû apprendre à vitesse grand V.
Ah, mais c'était un truc impressionnant. Et je me souviens qu'à l'époque, je disais, mais là, en 10 mois, j'ai plus appris qu'en 15 ans. Et là, tu vois, en étant en libéral, avec le peu de patients cancéreux que je reçois, alors que pourtant, c'est pas faute de dire, ouh, je suis là.
Ouais.
Et en fait, avec le peu que je reçois, je me dis, non, en fait, j'ai plus appris qu'en une carrière, clairement. Parce qu'il y en a... On n'en croise pas tant que ça, finalement, en libéral, surtout quand on est en zone urbaine où on est très nombreux aussi. Et donc, ouais, ah non, mais c'est impressionnant tout ce que tu apprends sur un truc technique, mais ouais, en quelques mois, c'est hallucinant, ouais.
Ouais, voilà. Donc, moi, j'avais vraiment cette impression de... C'était comme une espèce d'incubateur où j'apprenais énormément. Et voilà, c'était vraiment un moment riche. Après, du coup, j'ai eu mon premier enfant donc, en 2017, donc 3 ans après. Je me suis arrêtée 6 mois. Et en fait, pendant mon congé maternité, j'ai appris qu'on voulait me salarier. Et en fait, c'était soit ça, soit la porte, hein. C'est là que j'ai eu cette fameuse discussion très agréable avec le directeur des ressources humaines qui m'a très clairement expliqué que bah, soit je prenais le salaire qu'on me proposait, soit je me barrais, quoi, et qu'on trouverait bien quelqu'un pour me remplacer de toute façon. Et en fait, j'y perdais au change parce qu'en fait, si tu veux, il a, évidemment, lui, il avait juste converti le salaire qu'il me versait en libéral et... le salaire, enfin du coup il avait enlevé toutes les charges et tout ça et il me versait ça, sauf qu'en fait ben c'est pas pareil en fait de déclarer la moitié en salariat et la moitié en libéral parce qu'il y a des parts forfaitaires de charges que tu payes deux fois, etc. Enfin, bon, c'est clairement j'étais perdante. Et puis du coup c'est vrai que quand j'étais libérale je me faisais payer mes heures sup,
oui,
en fait quand même, alors que là je pouvais plus, il fallait que je les rattrape. Enfin, bon. Bon, du coup, j'ai décidé de rester parce que, bah, vraiment par amour pour la pratique et les équipes.
Oui.
Voilà, parce que c'était vraiment pas le moment pour moi de partir. Et après, j'ai essayé de, voilà, avec Jean-Claude, on était en train d'essayer de monter des projets, peut-être de formation ensemble, parce que lui, il faisait beaucoup de formation, il avait très envie de me transmettre tout ça. Et donc, on a commencé à faire... des projets, etc. Et puis finalement, rapidement, enfin, rapidement, c'est parce que ce genre de choses prennent du temps, mais en début 2020, je suis tombée enceinte de mon second, et puis là, il y a le Covid qui s'est invité. Et en fait, bah, du coup, je me suis fait arrêter très rapidement, puisqu'on ne savait pas trop, on savait pas trop ce que c'était, et puis du coup, je n'avais pas envie de risquer ma grossesse en restant à l'hôpital. En plus, à l'époque, on avait vraiment des masques un jour sur deux et selon les jours c'était pas forcément des FFP2, enfin voilà, j'avais pas du tout envie de risquer quoi que ce soit, donc je me suis fait arrêter quasiment dès le début de ma grossesse et finalement j'ai pas travaillé pendant 1 an. Finalement c'est très long. Et en fait bah là d'un coup je me suis dit ah ouais en fait finalement la formation c'est pas forcément un... enfin, tu vois tu peux compter dessus pour tes revenus et puis en fait tu les as pas, on ne sait pas, tu vois. Voilà. Et en fait c'est rigolo parce que ça a complètement fait changer mon point de vue. Juste avant le Covid, j'étais en mode faut que j'essaye de passer à temps plein à l'Oncopole, on va faire des grandes choses, on va faire de la formation, on va faire des trucs, ça va être super. Et puis il y a eu ce coup d'arrêt là, bon bah comme tout le monde, hein, j'ai été chez moi avec mes enfants à regarder mes fleurs pousser parce que j'avais rien d'autre à faire. Et puis en fait, finalement, j'ai pris goût aussi à ce vide, quoi, à ce rythme beaucoup plus cool. Et en fait, plus ma reprise approchait, et moins j'avais, moi, tu te rappelles, hein,
Oui.
je te le disais, j'avais pas envie, en fait. Bon, déjà, j'avais peur que le Covid ait un peu transformé l'ambiance à l'hôpital.
Oui.
Ce qui n'est pas complètement faux quand même. Quand je suis revenue, ce n'était pas tout à fait pareil, hein, quand même. On ne va pas se mentir. Ça a laissé des traces encore aujourd'hui. Ce n'est plus tout à fait pareil. Au niveau convivialité et tout, il y a quand même eu un truc qui s'est cassé. Et puis bon, bah, de toute façon, voilà, je suis revenue. J'avais deux enfants, quoi. Deux enfants et deux boulots. Il y avait un truc en
Un
trop
truc
dans
qui va pas.
l'équation, tu vois. C'était pas possible. Ouais, non, mais voilà, enfin, c'était trop, quoi. En fait, en plus, le truc, c'est qu'il y avait des fois où je faisais des demi-journées. Alors, attends, je sais plus si toi, quand t'es... Il y avait encore des demi-journées
Ouais, je crois.
où on changeait d'exercice entre midi et
Il me
deux ou
semble,
pas?
ouais, que le
Au
lundi,
tout
c'était
début, je
ça.
faisais ça.
Ouais.
Ouais, au tout début, au tout, tout début, je faisais genre lundi matin en Coupole, lundi après-midi cabinet. Mardi, c'était toute la journée en Coupole. Le mercredi, toute la journée au cabinet, parce que le mercredi, quand même, hein, c'est cabinet. Et après, pareil, jeudi et vendredi, c'était matin à l'Oncopole. Donc, en fait, je faisais, en fait, t'as vu, en plus, c'est pas à côté, il y a une vingtaine de kilomètres. Donc, voilà, c'est quand même sport. Et en fait, du coup, j'ai essayé d'abord de faire des journées au même endroit
Oui.
pour plus changer d'endroit, pour déjà réduire les trajets, mais en fait, c'était trop. Et là, pour le coup, tu me l'avais posé dans les questions que tu m'avais préparées, et là, pour le coup, j'avais l'impression d'être nulle part, partout en même temps. Enfin, voilà, c'était, mais vraiment. J'étais plus présente nulle part, ni même chez moi.
Oui.
Quand j'étais avec mes enfants, j'étais pas là, j'étais en train de penser à soit au boulot, soit à la charge mentale du foyer, quoi, les courses, les machins, les bidules, l'inscription à machin. J'étais au cabinet, je me disais, putain, j'ai pas envoyé le mail pour tel patient à l'oncopole, faut que je pense à le faire tout à l'heure, machin. Quand j'étais à l'oncopole, j'étais sans arrêt en train de regarder la montre pour pas être en retard pour aller chercher mes enfants. Enfin, c'était l'enfer.
Oui.
C'est franchement, c'était devenu. Enfin, je m'y retrouvais plus du tout. J'avais plus aucun équilibre pro, perso. Enfin, voilà, c'était compliqué. Et en plus de ça, au niveau financier, c'était
Oui.
catastrophique. Parce qu'en fait, mon aîné était rentré à l'école. Je m'étais toujours dit que j'arrêterais de travailler le mercredi après-midi quand j'aurai mes enfants à l'école. Et en fait, j'ai fait sauter une énorme après-midi au cabinet. Sauf qu'en fait, ben, ça se voit dans le chiffre d'affaires. Un mercredi après-midi blindé en moins. C'est énorme.
Oui.
Et en fait, comme j'avais un mi-temps à l'oncopole, bah, j'ai réduit mon temps au cabinet. Et en fait, financièrement, c'était devenu hyper compliqué. J'ai vidé ma trésorerie. Enfin, c'était, voilà. Donc, voilà, j'ai commencé à... Et puis après aussi, on s'est fait harceler pour ce vaccin contre le Covid.
Ah.
On a vraiment été... Enfin, voilà, moi, j'ai été... Évidemment, ici n'est pas la place d'un débat sur ça, mais j'avais décidé d'attendre que ce soit obligatoire pour me faire vacciner. J'avais pas forcément décidé de le faire. Mais le jour où ça a été obligatoire, évidemment, j'ai suivi le mouvement, hein, j'ai pris mes rendez-vous, etc. Et en fait, je me suis fait vraiment traiter comme. Je sais pas quoi trouver comme mot, mais voilà, c'était vraiment. En fait, il y avait une espèce de chasse aux sorcières, alors que. Bon voilà, j'étais traitée en fait comme l'anti-vax qui se met en grève de la faim devant mon hôpital, alors qu'en fait c'est juste que j'avais attendu. Bon voilà, je me suis fait renvoyer un jour par le DRH de l'hôpital parce que j'avais pas fait le PCR qu'il fallait que je fasse parce que je rentrais de congé et que je le savais pas. Il m'a fait quitter l'oncopole alors que j'avais la salle d'attente pleine de patients. Et là, tu vois, à un moment donné, je me suis dit, voilà, c'est trop en
Oui.
fait. Là, c'est trop. Non seulement je me saigne pour être un peu partout, et en plus de ça, on vient me saouler avec un truc que j'ai fait en plus dans les règles. Enfin voilà. Et là, ça, ce jour-là, j'ai commencé à me dire, bon, c'est pas que pour ça, mais tu
Bien
vois,
sûr.
ça a été presque la goutte d'eau qui m'a fait dire, bon, bah là, en fait, je suis plus à ma place, je me sens plus en harmonie avec moi, quoi. Et du coup, j'ai commencé. Bon, ça a pris vachement de temps, ça a pris plusieurs mois pour prendre ma décision, hein, parce que c'était dur. C'était dur. Mais j'ai décidé, voilà, de quitter l'hôpital, en fait, en me disant qu'il fallait que je le fasse pour moi, pour ma famille. Et puis voilà. Et en fait, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises.
Oui.
Mais sur le moment, c'était un peu dur. Et puis, Ce qui était difficile, c'est que du coup, ce maître de stage là qui avait mis beaucoup d'espoir en moi, si tu veux, tacitement, il y avait une espèce de passage de flambeau. Quand je suis arrivée, il m'a dit, voilà, je pars à la retraite dans 13 ans, j'ai 13 ans pour t'apprendre tout ce que je sais. Et en fait, j'avais un peu l'impression de trahir ça,
Ouais.
tu vois, de ne pas être à la hauteur en fait de cette confiance qui m'avait donnée. Et ça, c'est ça qui a été le plus gros frein à ma décision, en fait. Plus que la pratique, plus que les patients, plus que les collègues, voilà, ça a été vraiment ça. Et en fait, il a été super parce que quand je lui ai dit, il m'a dit, écoute, fais ton chemin. Fais pas attention de moi, fais ton chemin. Et donc, bah voilà, la parole libératrice. Bon, bah ok, je vais
C'est bon, je
voir. Non,
démissionne.
mais... Ouais, non, mais tu vois, j'avais quand même besoin d'une validation. Et il a, bah, évidemment, il a dit ça pour moi parce que lui, il aurait bien aimé que je reste, c'est sûr. Et puis après, bah, il y a eu, entre-temps, il y avait une collègue qui était un petit peu malade. Donc, il y a eu des orthos qui sont venus remplacer, la remplacer. Il y a une super fille qui se reconnaîtra, coucou Audrey, qui est arrivée à ce moment-là. Et en fait, ben, j'étais hyper confiante de partir parce que je savais qu'elle, elle serait largement à la hauteur de prendre le relais. Elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours à fond. Les patients l'adorent et les collègues aussi. Donc je savais que Jean-Claude, il serait pas tout seul et que ça allait rouler, quoi.
Ouais.
Et depuis, je crois que maintenant. Il et elle sont cinq en tout.
Ah ouais, c'est vrai.
Il y a une
Bien.
autre logo qui est arrivée de Belgique. Et puis, il y a deux néo-diplômés qui ont commencé juste après à temps partiel. Je ne connais pas les temps de chacun, mais chacun est à temps partiel. Voilà.
Waouh, super. Ouais, parce
Voilà,
que quand
voilà.
j'étais, nous, on était à 2,5 équivalents temps plein et c'était clairement pas assez, hein. Donc,
Ben là, du
c'est
coup,
bon.
je pense qu'ils sont trois équivalents temps plein, je
Ok.
crois. Qu'entre-temps, ils ont gagné un mi-temps dans la bataille. Bon,
Ah,
après, il y a eu
yes.
des changements, il y a eu des changements de direction des soins, etc., je
D'accord.
crois. Du coup, ça a un peu fluidifié les trucs. Voilà. Après, je ne sais plus trop ce qui s'y passe. Pour le vrai, j'ai
Ouais.
un peu... Voilà, et donc j'ai pris cette décision. Et en fait, comme j'avais besoin d'un truc qui me motive, je me suis formée aux troubles alimentaires que je pratiquais pas du tout. Et c'est là, en fait, que je me suis lancée ce challenge de me former à ça. Donc, je me suis bien formée. J'ai commencé à prendre des patients dans ce domaine. Et en fait, waouh, quelle aventure, en fait. C'est pas, enfin, quand on n'a jamais fait, c'est un nouveau métier,
Ouais.
encore une fois. Donc, c'est pour ça que j'avais l'impression d'avoir fait une reconversion parce que j'ai lâché un truc pour un truc qui me semblait pas si éloigné que ça. Au départ, je me suis dit déglutition, machin. Mais alors, vraiment, c'est un monde entier qui s'ouvre à moi.
Ouais.
Bon, évidemment, quand même, mes connaissances en ORL me servent quand même au niveau anatomie et tout. C'est quand même, y a quand même des choses qui m'aident. Mais par contre, ouais, c'est pas du tout la même chose, quoi.
Ah ouais, ça a rien à voir, ouais.
Et au début, les premiers patients que j'ai pris, j'avais l'impression de revenir 10 ans en arrière et de débuter, tu vois, ma pratique. Vraiment, bon, bah, quand même, parce que tu as quand même enfin, appris à parler aux parents. Enfin, tu vois, accueillir une famille dans mon cabinet, dans mon bureau,
T'avais
ça
l'habitude
va
aussi, ouais.
maintenant, tu vois. Mais au début, les patients, ils sortaient de là et je me disais, oh là là. Je ne vais pas y arriver. Et après, tu sais, des fois, j'étais obligée de me dire à haute voix, mais si, tu vas y arriver. Mais si, tu en es capable. Je me le disais à haute voix, tu vas reprendre tes cours de formation et puis tu vas trouver des axes et puis ça va aller. Et puis au pire, tu écris à tes formatrices. Enfin, tu vois, j'étais vraiment en train de m'auto-stimuler, quoi, pour que, enfin, pour m'encourager parce que, en fait, ouais, c'est quand même intense. Quand tu reçois un tout petit bébé qui perd du poids, ben, faut réagir, quoi,
Oui,
vite, tu
c'est
vois.
clair. Et tu as commencé à en prendre un par un, du coup, ou est-ce que tout de suite tu as pris une grosse vague de nouveaux patients sur les troubles alimentaires?
Alors, juste avant ma formation, j'en ai pris un ou deux,
Oui.
histoire de parce que bon, j'avais quand même, enfin, je veux dire, j'avais quand même quelques petites notions et tout. Enfin, je veux dire, tu vois, t'as quand même, on l'avait vu à la fac et tout ça. Et puis bon, j'avais quand même des collègues aussi qui pratiquent, enfin voilà, que je pouvais appeler. Donc j'en ai pris un ou deux. C'était pas hyper satisfaisant, mais au moins, tu vois, je suis arrivée à la formation avec des
Avec des
questionnements
patients en
précis.
tête en plus.
Voilà. Et en fait, j'ai fait enfin, une formation que vraiment je conseillerais à toutes celles qui veulent se former là-dedans. C'est la formation de base donc de Emeline Lesecq et Audrey Lecouffle, qui sont deux orthophonistes lilloises qui sont vraiment super et vraiment. C'est deux modules de 2 jours, la formation de base, et après elles ont plein d'autres modules de perfectionnement qui sont super aussi. Et vraiment, en fait, tu ressors de là, tu es hyper équipée, quoi,
Ah
pour
ouais.
le coup. Voilà. Et puis elles sont hyper bienveillantes, donc tu peux vraiment en profiter pour poser plein de questions. Enfin voilà, elles sont très très accessibles, je trouve. Pourtant, elles en ont sous le capot, hein. Mais elles restent hyper accessibles,
Ah,
quoi.
c'est super.
Et du coup, voilà, je me suis sentie pas mal armée. Et puis depuis, bah, j'ai fait d'autres formations. Et puis petit à petit, tu as des patients qui te font penser à d'autres patients, etc.
Ouais.
Du coup, j'en ai pris un ou deux pour répondre à ta question, excuse-moi. J'en ai pris un ou deux juste avant. Et après, bah, j'ai répondu à toutes les demandes. Donc ça dépend. En fait, il y a des périodes où il y en a plein en ce moment. J'en ai sur ma liste d'attente que j'arrive pas à prendre. Alors que d'habitude, j'arrive toujours à avoir des petits créneaux de libre pour les recevoir vite. Mais là, en ce moment, bah, voilà, j'en ai plein. Et puis il y a des fois où je n'avais pas de demande pendant 2 mois. Voilà. Après, ce que j'ai fait, c'est que juste après ma formation, j'ai pris le temps d'écrire aux pédiatres et aussi aux hôpitaux où il y avait des gastropédiatres, etc. Et des, tu vois, des, par exemple, à l'hôpital des enfants à Toulouse, il y a un service aussi où ils s'occupent des troubles alimentaires. Donc, je me suis fait connaître. Enfin, c'est facile aussi parce que, par exemple, tu vois, l'orthophoniste qui travaille là-bas, eh ben, elle a été en stage avec moi à l'Oncopole. Donc, c'est vrai que j'avoue que j'ai un réseau aussi qui me facilite la
Ouais.
tâche. Même si là, quand même, le réseau change un peu parce que c'est plus des gens avec qui j'avais l'habitude de travailler. Mais ce qui est hyper facile aussi pour moi, c'est qu'en ayant travaillé, bah, du coup, 8 ans à l'Oncopole, ben, moi, ça me pose aucun problème. J'ai aucune appréhension de décrocher mon téléphone et d'appeler un médecin et dire bonjour, voilà, j'ai besoin qu'on discute de ce patient. Tu vois, et ça. Je pense que j'aurais pas fait d'hospitalier, j'arriverais pas à le faire.
Ouais.
Enfin, pas comme ça. Parce que tu as toujours. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup d'orthos qui ont une appréhension de se faire envoyer bouler, etc. Et ça m'arrive de me faire envoyer bouler, je vais pas
Ouais.
dire le contraire. Mais je le prends pas personnellement parce que je sais qu'en fait, c'est des gens qui connaissent pas notre métier. Quand ils nous envoient bouler, parce
Ouais.
qu'il y en a qui connaissent notre métier, heureusement, de plus en plus. Mais tu vois, j'ai aucune appréhension en fait de faire un mail même, tu vois, pour expliquer, pour dire machin, voilà. Et ça c'est quelque chose que j'ai tiré de mon expérience là à l'hôpital et c'est hyper précieux parce qu'on a besoin de communiquer avec les médecins, quoi, en
Oui.
fait. Tu peux pas juste recevoir un patient, avoir un parent qui t'explique grosso modo ce qui s'est passé sans avoir des détails, tu vois. Parfois, tu as besoin d'avoir un ressenti vraiment technique, quoi.
Puis surtout dans les
Voilà.
troubles alimentaires, peut-être plus que sur les troubles des apprentissages
Ah
où le
oui.
médecin a un peu moins sa place aussi, oui.
Oui, bien sûr. Je parle évidemment de troubles, même, tu vois, des trucs ORL ou
Oui.
des trucs comme ça. Parce que bon, je me suis formée là-dedans dans le but de me, entre guillemets, spécialiser, mais tu vois, je prends pas que ça non plus.
Oui.
Déjà parce que bah, c'est hyper intense comme prise en soin, il faut être très très dispo. Et au niveau énergie, je pense que je ne pourrais pas tenir à avoir que ça.
Oui.
Et aussi parce que, en fait, au niveau de l'emploi du temps, c'est compliqué, je trouve, d'avoir que ça parce que c'est des gens que tu vois, enfin, tu leur fixes un rendez-vous et tu ne sais jamais à l'avance dans combien de temps tu vas les revoir. Enfin, si, il y en a hein, que je vois toutes les semaines avec des objectifs précis, mais tu vois, les bébés, par exemple, je ne les vois pas toutes les semaines.
Oui.
Je les reçois une fois, on se recale un rendez-vous, et puis on se dit, bon, ben, on verra. Et en fait, il faut avoir une flexibilité dans l'agenda. Comme je travaille maintenant, je travaille que 3 jours par semaine au cabinet, là. Et en fait, je ne peux pas me permettre d'avoir un emploi du temps en plein de trous. Tu
Oui.
vois, financièrement, ce n'est pas possible. Donc, je fais. Mais bon, voilà, il y a des choses que je ne fais plus du tout. Je ne fais plus de langage écrit, je ne fais plus de bégaiement, je fais plus de. Qu'est-ce que je fais plus? Bon, je vais te dire ce que je fais, ça ira plus vite. Bon, voilà, je fais les troubles alimentaires, je fais les troubles OMF. Je garde évidemment la cancéro, l'ORL, quand il y en a, je le prends évidemment. Je fais un peu de voix encore, mais tu vois, j'en prends moins parce que
Oui.
ça me. Voilà. franchement. Et par contre, je garde une activité en langage oral, surtout pour les petits, mais j'ai aussi du TDL et tout, parce que ça, vraiment, ça me... Je trouve ça cohérent aussi avec l'oralité, etc. Donc, j'ai gardé cette pratique-là. Je fais plus de logicomat, voilà, c'est ça. Tu vois,
Ah!
alors tu m'étais formée au début. Tu peux revenir me remplacer
C'est
en
bon,
toute
ok.
sérénité.
Mon angoisse.
Non, ouais. Ouais, je sais que ça avait été difficile pour toi. Ouais, non, j'en fais plus du tout. Bah, justement, parce que pareil, c'est des prises en soin où je trouve qu'il faut vachement. En fait, j'arrive plus à assez réfléchir.
Ouais.
J'ai plus assez de place pour réfléchir et donc j'ai préféré juste arrêter pour l'instant. On verra, peut-être que je reprendrai un jour, plutôt que de faire ça à la Jean-Michel à peu près, tu vois, à me dire, tu vois, enfin voilà, j'ai préféré arrêter pour l'instant. Même si, évidemment, en langage oral, chez les tout-petits, je garde... une trace de mes formations en PREL, par exemple, premier raisonnement, émergence du langage, où de toute façon, ma pratique, elle en est empreinte. Enfin, tu es obligé, voilà. Mais je fais plus de bilan vraiment de logicomat avec des plus grands, tu sais, qui viennent pour ça, quoi.
Ouais.
Ça, je le fais plus.
Et depuis que tu as mis en place du coup de travailler exclusivement en libéral, est-ce que tu as réussi à retrouver un petit peu l'équilibre vie pro, vie perso que tu avais?
Ah bah, complet. Alors là, je suis... Ouais, c'est génial.
Oui.
En fait, j'ai le lundi, mardi, jeudi au cabinet où vraiment, par contre, après, je fais des bonnes journées,
Oui.
tu vois, parce que je suis quand même quasiment à 40 rendez-vous par semaine sur 3 jours. Donc, bon, voilà, c'est assez... Voire même parfois plus, ça
D'accord.
dépend. Donc, c'est assez intense. Le mercredi, c'est la journée vraiment famille. Donc, le matin, tu vois, quand mes enfants sont à l'école, je m'occupe de trucs pour la maison. Et l'après-midi, je suis avec eux. Et le vendredi, c'est ma journée pour moi. Donc, de temps en temps, je cale un bilan ou une équipe éducative parce que... Bah, mais c'est moi qui choisis, tu vois,
D'accord.
vraiment. Je choisis, je me dis là, ça va être OK. Bah, je me sens capable de rajouter une demi-journée. Et sinon, bah, c'est des rendez-vous pour moi, du sport, voilà. C'est rare que je fasse rien quand même, on va pas se mentir.
Ça m'aurait
C'est rare
étonné.
que voilà, je pense pas que ça me soit déjà arrivé de, tu vois, de me poser sur Netflix, par exemple, alors que j'aurais pu en rêver à un moment donné, mais bon, ça n'arrive pas. Mais tu vois, je peux par contre flâner en ville pendant 1 heure ou 2 et juste, tu vois, profiter d'être avec moi-même. Et ça, du coup, ça me fait vachement bien. J'ai entrepris aussi un travail en psychothérapie depuis un peu plus d'un an. Donc, j'ai calé ces rendez-vous aussi sur le vendredi. Ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait beaucoup
Ouais.
avancer. Parce que mine de rien, tu vois, quand je suis partie, là, j'ai démissionné, ça fait bientôt 2 ans. J'étais vraiment au bord du burn-out, en
Ouais.
fait. Et en fait, j'étais déjà dans le surmenage.
D'accord.
J'étais déjà dans le surmenage. Et c'est bizarre parce que au moment où j'ai arrêté, ça a décompensé d'un coup.
Mais là,
En
au
fait, c'est
moment.
après avoir arrêté que je me suis rendu compte que la cocotte minute, elle était en train
Ouais.
d'exploser. Parce que j'attendais ma démission. Et puis, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je me suis dit que j'allais tout faire en une semaine. Tu vois, je ne sais pas comment dire. Je me suis dit, ouh, je vais avoir vachement de temps. Et voilà.
Oui.
En fait, non, ça ne marche pas comme ça.
C'est clair.
Enfin, en fait, non, tu peux pas faire tout ce que tu attends de faire depuis 6 mois en une semaine, quoi. Je veux dire, c'est pas
Et
possible.
puis surtout quand tu étais du coup dans cet état de surmenage, en fait, ces moments où tu t'arrêtes, que ton corps il dit, ah ouais, t'as le temps de t'arrêter. Ah bah alors là, tu vas voir.
Ouais, c'est ça. Et du coup, bon, là, ça a été un peu chaud, j'avoue, ce moment-là. Pendant un mois, là, ça a été chaud. J'étais vraiment déprimée. Je pleurais tout le temps. Dès que je pensais à l'oncopole, je pleurais. Enfin, c'était horrible, franchement, c'était. Et puis après, heureusement, il y a eu l'été, tu vois.
Ouais.
Il y a eu l'été, le soleil, les copains, comme on dit, les vacances et tout. Et en septembre, ça allait. Après, j'ai mis des choses en place quand même. Tu vois, je me suis inscrite sur Perfactive, grâce à toi d'ailleurs. Merci. Je me suis inscrite sur Perfactive. Du coup, ben, ça m'a libéré une charge mentale énorme, en fait. Alors, c'est quand même moi, en grande partie, qui programme les rendez-vous des patients. Mais tu vois, j'ai envoyé un SMS, par exemple, pendant les vacances, pour être sûre qu'on ne m'oublie pas. Ben, là, de toute façon, ils reçoivent tous un mail.
Oui.
La liste d'attente, bah, j'ai quand même activé la validation parce que bah, y a des prises en soins qu'on ne prend plus et les gens, bah, des fois, ils savent pas s'y retrouver. J'ai mis un détail quand même sur ma page d'accueil, mais bon, tu vois, ils savent pas s'y retrouver. Donc, des fois, juste, je refuse certains trucs pour que les gens n'attendent pas pour rien. Mais tu vois, la liste d'attente, en fait, ben, c'est hyper tellement plus simple d'avoir un truc en ligne qui s'efface tout seul si la personne n'a plus besoin. Enfin, c'est quand même super simple, quoi. Donc, j'ai mis ça en place. Et puis après, c'est vrai que l'été de la démission, là, j'ai fait un énorme ménage dans le bureau. Tu ne reconnaîtrais plus. Je ne sais plus si je t'avais envoyé des
Ah,
photos,
je crois
mais...
pas.
Ah ben, j'ai tout changé de place. J'ai enlevé des meubles. J'ai changé les meubles. J'ai enfin créé l'ambiance un peu Montessori que j'avais envie d'avoir pour le langage oral, pour les petits, là. Donc, j'ai mon petit espace avec les plateaux Montessori et tout. Donc, c'est trop bien. Enfin, bon, c'est jamais complètement fini, mais tu vois, je me suis refait ma safe place, tu vois. En fait, voilà, j'ai mis ça en place. Et je suis arrivée en septembre, j'avais de l'énergie et voilà, c'est reparti. C'est reparti.
Et justement, toi qui disais au début que tu avais finalement ton quota d'aventure un petit peu à l'hôpital et après t'as ton côté plus routine, plus tranquille en libéral, est-ce que tu as l'impression que maintenant en libéral, c'est toujours une routine tranquille ou est-ce que c'est quand même stimulant avec les changements que tu as mis en place?
Ah bah ouais, justement, tu pointes quelque chose de très juste, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup peur. J'avais peur de devenir, tu sais, l'orthophoniste libérale lambda, tu sais, qui est un peu plan-plan et tout, voilà. Sans aucun jugement pour celles qui ou ceux qui choisissent ça, mais je sais pas comment dire, j'avais une vision du libéral qui est pas du tout, qui était complètement faussée, hein, en plus. Je sais pas, je me faisais, ouais, j'avais peur de ça, effectivement. Et en fait, bah, avec les troubles alimentaires, je trouve mon lot de... Tu vois, je garde toujours des petits créneaux d'urgence. Donc, des fois, je rappelle les gens très vite et puis je les reçois vite. Et puis, du coup, il y a ce côté un petit peu, ouais, que... aventure, on va dire. Parce que... Mais bon, c'est pas pareil. Mais en même temps, je suis dans une période de ma vie aussi où ça me va bien d'avoir un peu plus de routine. En tout cas, ce qui me va bien, c'est de savoir de quoi ma journée va être faite et de savoir à quelle heure je commence et à quelle heure je finis. Ça, c'est sûr que ça me va bien. Je prends des vraies pauses quand même, tu vois. Je me prends quand même 1 heure de pause. C'est exceptionnel. Des fois, j'ai qu'une demi-heure, mais c'est vraiment exceptionnel. Je prends une vraie pause. Et parfois, je fais même du yoga entre midi et deux. Enfin, voilà, j'essaye de vraiment avoir des vraies pauses. Et tu vois, bah, j'ai à peu près moite-moite de créneaux fixes et de créneaux mobiles. Et du coup, ça me va bien. Ça me crée en fait quelque chose qui n'est pas trop routinier non plus. Et puis en fait, j'ai gardé du coup ce côté soignante globale. Du coup, tu vois, quand je reçois une famille, je les accueille vraiment. Enfin, j'essaye en tout cas, je me mets vraiment dans l'intention de les accueillir tout entier, quoi. Pas que pour le trou pour lequel ils viennent. Et j'ai l'impression que les gens, ils le sentent, en fait. Les parents, quand je les sens, bon, souvent les parents de bébés avec des troubles alimentaires ou même un peu plus grands, ils arrivent quand même très stressés, très angoissés. Ils ont mis plein de stratégies en place qui ne fonctionnent pas. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et en fait, j'essaye vraiment de me rendre hyper dispo pour ça et j'ai l'impression que ça fonctionne bien. J'ai l'impression que ma safe place devient la leur aussi, tu vois. Et en fait, bon, après, je vais pas mentir, les premiers rendez-vous, souvent, après, je suis un peu rincée. Mais par contre, je suis assez satisfaite de comment je reçois les gens et ça, je l'ai aussi appris, je pense, dans mon exercice en cancérologie, pour le coup. Je vais pas dire que hospitalier, mais vraiment cancéro. Où j'ai appris qu'en fait, les patients cancéreux, c'était des humains à part entière qui avaient aussi une vie. Enfin, voilà, tous nos patients ont une vie, etc. Mais c'est vrai que, je sais pas, moi, par exemple, en langage écrit, je sais qu'il y en a sûrement qui le font, mais moi, je sais qu'en langage écrit, j'ai jamais trop réussi à prendre le patient dans sa globalité parce que j'avais du mal à faire le lien aussi avec le reste, etc. Bon, avec le stress aussi, un petit peu avec le stress de l'enfant, je veux dire. J'arrivais un peu, mais c'est pas pareil. Là, je me sens vraiment avec les troubles alimentaires au cœur du fonctionnement de la famille, et du coup, j'essaye vraiment Voilà, pareil, tu vois, s'il y a des troubles du sommeil, je ne vais pas juste le noter dans mon anamnèse, je vais essayer de trouver des solutions et de les réadresser. Alors, ce n'est pas moi qui vais gérer, évidemment, mais de les adresser à qui pourrait les aider ou ce genre de choses, tu vois. J'essaye de ne pas me limiter que à ma profession, quoi. Voilà.
Ouais, parce que là, tu as les connaissances aussi et l'expérience du coup pour faire cet aspect de coordination et sûrement qu'ils te confient tout ça parce qu'ils sentent qu'en face, toi, tu as les épaules pour gérer ça, quoi. Et qu'ils se sentent
Oui,
beaucoup
bien
plus en
sûr.
confiance quand ils vont voir un médecin où justement ils savent pas trop enfin, quelle coordination peut être faite ou quoi, s'il faut donner un médicament, parce qu'il y a un peu l'idée de ça, un problème, un médicament quand on va chez le médecin,
Bah
alors
oui.
que c'est pas ce dont il y a besoin là dans ces conditions-là, quoi.
Bah ouais, c'est sûr. Et tu vois, encore hier, il y a une maman qui a un petit garçon de 4 ans, qui a des troubles alimentaires. Bon, il avait des troubles alimentaires surtout oromoteurs, mais du coup, qui se sont transformés avec les années, même s'il est encore jeune, avec des difficultés plutôt de comportement, en fait, des croyances sur les aliments, avec des choses qui... Voilà. Et en fait, là, 4 ans, clairement, il y a aussi la néophobie alimentaire qui vient se greffer, tu vois. Et en fait, la maman, hier, elle était désemparée parce que son mari, bah, il s'est mis en colère il y a quelques jours parce que c'était compliqué à table et qu'il était fatigué et tout ça. Et c'est OK, enfin, c'est OK aussi de perdre patience. Et elle m'a dit un truc, tu vois, j'avais dit... Peut-être qu'on va aller voir aussi un pédopsy. Et tu vois, j'ai senti qu'elle me le disait pour savoir
Si c'était une bonne idée ou pas.
si j'allais approuver ou pas. Tu vois, je ne sais pas comment dire. Alors bon, bah évidemment, j'ai rien dit sur le moment. J'ai laissé venir et tout ça. Et puis en fait, je l'ai juste rassurée parce que ce petit garçon, il va bien, en fait. Il va bien. On a travaillé l'oromoteur. Du coup, maintenant, il mastique bien. Mais évidemment qu'il reste des aliments qu'il n'a pas envie de manger, etc. Parce que de toute façon, il a 4 ans. Et puis, évidemment, il y a eu une histoire alimentaire qui est un peu compliquée à la base. Donc, de toute façon, ça ne va pas se résoudre en un claquement de doigts. Et en fait, ils avaient progressé. Et le fait que ça retombe un peu, ça les décourage. Et du coup, hier, tu vois, j'ai vraiment essayé. Bah, c'est qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur cette séance hier, mais j'ai essayé vraiment de la rassurer, de lui redonner du courage, etc. Et j'ai senti qu'elle avait posé une valise qui était restée dans mon bureau, tu vois. Et ça, pour moi, ça fait vraiment partie du travail. Et après, je sais qu'il y en a plein qui disent, parce que des fois, on est un peu surmené, ouais, on n'est pas des assistantes sociales, on n'est pas des psychologues. C'est vrai. Et en même temps, elle est où la limite, en fait, entre orthophonie, psychologue, assistante sociale ou peu importe quoi? Ben, des fois, ça se rejoint, en fait.
Et puis, je pense que
Bien sûr qu'on a chacun.
ça dépend aussi de comment tu te sens pour chaque patho. Tu vois, je sais que moi, il y en a pour qui, justement, j'adore faire cet aspect de coordination que clairement j'ai vu à l'hôpital aussi quand je t'ai remplacée
Oui.
et qui est super agréable. Et d'autres fois, en fait, enfin, tu vois, je vois pas trop quel lien faire
Oui, mais bien sûr.
et ça se pose pas, tu vois. Je pense que ça dépend aussi peut-être de nos connaissances chacun, ce qu'on a expérimenté pour savoir si, en fait, ben, il y a des moments où je dis, bon, ben non, là, clairement, moi, j'ai que ma casquette d'ortho et là, je peux pas
Ah,
vous
mais
aider pour
oui.
ça. Et d'autres fois, si.
Alors, évidemment. Oui, bien sûr. Non, non, c'est sûr. Après, là, je parle vraiment de mon expérience personnelle. Et je parle, évidemment, là, je parle d'un cas parce que c'est tout frais, c'est hier. Mais il y a bien sûr des fois où je ne sais pas dire. Et je le dis, hein, quand je ne sais pas. Je dis, écoutez, là, j'avoue que j'en sais rien. J'en sais rien. Là, ça dépasse mes compétences. Ou alors, je ne suis pas assez. Tu vois, par exemple, il y a un truc où je ne me sens pas encore assez à l'aise, c'est les freins. Les freins restrictifs. Franchement, je ne me sens pas hyper à l'aise encore parce que je n'ai pas encore fait de formation spécifique en plus. Et je trouve qu'au vu du manque de consensus quand même, t'entends un peu de tout et de n'importe quoi. Enfin, en tout cas, moi, dans mon coin, là, je n'ai pas de médecin vraiment référent avec qui je peux discuter de ça. Et par contre, j'ai une ou deux chiropracteurs avec qui je discute pas mal. Et du coup, quand j'ai un doute, bah, je dis, ben... Voilà, je vais envoyer à la chiropracteur et on verra ce qu'elle dira, si elle confirme ou pas. Et petit à petit, en fonction de ce qu'elle me dit, j'affine en fait mes trucs. Mais tu vois, je me prononce rarement, franchement, sur un frein, parce que pour l'instant, en tout cas, je ne me sens pas hyper, je sais pas, je trouve ça délicat, les freins encore, voilà. Et puis il y a d'autres fois où, tu vois, j'affirme, par exemple, moi, dans mon coin, là, il y a plein d'ORL qui sont contre le lavage de nez à la seringue.
Ah, d'accord.
Parce qu'ils disent qu'en cas d'otite, manana et tout. Bon, ok, mais en fait, ça manque de discernement. Un enfant avec qui tu laves le nez à la seringue comme il faut, il n'y a aucun risque que ça parte dans les oreilles.
Oui.
Et c'est vrai que si tu l'y appuies sur la seringue comme un taré, là, bah oui, c'est sûr que là, tu risques de l'envoyer. Mais si tu fais tout doucement avec la bonne position et tout, et moi, je le montre toujours aux parents et on le fait ensemble. Et si besoin, je donne le lien de la vidéo de Rachel, la tribu Happy Kid, parce qu'elle a plein de vidéos qui sur son compte qui sont super pour le montrer. Mais je le fais quand même avec les parents pour qu'ils puissent adapter leur position, etc. Ben, pour moi, il y a zéro risque, en fait. Tu vois, et ça, je le dis. Je
Ouais.
fais, ben, écoutez, ok, vous écouterez qui vous voudrez. Moi, je suis juste pas d'accord avec le médecin. Voilà. Juste, voilà, c'est pas, voilà. Mais après, voilà, après, je dis toujours aux parents, attention, je ne vous mets pas entre j'arrive pas à trouver de la crayon, c'est l'enclume et le marteau, un truc comme ça. Le but, ce n'est pas que vous ayez vraiment le doute et tout ça. J'ai fait, vous faites ce qui est juste pour vous. Si vous avez un doute sur ce que je vous dis et que vous préférez écouter le médecin, c'est OK, il n'y a pas de souci, on n'en rediscutera même pas si vous n'avez pas envie. Et si vous avez, voilà, moi, je vous explique juste j'expérimente au quotidien. Et après, voilà, vous êtes libre de faire votre choix. Mais vous faites un choix éclairé.
Ouais, au
Voilà.
moins, ouais, ils ont toutes les informations, ça c'est chouette.
Ouais, voilà.
On va arriver à la dernière question du podcast, Laurine. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices?
Alors, je pense que j'aimerais que chacun, chacune qui écoute. Orthophoniste ou pas d'ailleurs, puisse se sentir capable de changer de direction quand il ou elle sent que c'est juste. Et parce qu'en fait, parfois, ça fait peur et en fait, souvent, quand on arrive de l'autre côté, on sent que c'était la bonne décision. Et je sais que parfois, on met du temps, on reste trop longtemps dans une situation inconfortable par peur de changer. Et je pense que c'est important de s'écouter vraiment et d'essayer de trouver les ressources pour se faire confiance. Voilà. Et je pense que vraiment, nous, les soignants et soignantes, on est vraiment ben, au cœur, enfin, on a un vrai rôle dans la société, en fait. Soigner, c'est politique aussi. Et je pense que c'est hyper important de mesurer cette puissance qu'on a en tant que soignant et de se faire confiance parce que l'orthophonie, ce n'est pas une sous-partie du soin, quoi. Des fois, on se sent un peu. Enfin, je vois des fois sur les réseaux, tu vois, je ne sais pas, des orthos où je sens qu'il y a du mal-être, il y a du. Voilà. Et c'est OK aussi de ne pas être toujours. Voilà, moi aussi, il y a des fois où je me dis, oh, je suis nulle. Le syndrome de l'imposteur revient parfois aussi. Oh là là, là, je n'ai pas été bonne aujourd'hui, je n'étais pas présente. Bon, ça m'arrive évidemment régulièrement. Mais je pense que c'est important de se dire qu'on est orthophoniste, on a fait ce choix pour quelque chose, chacun et chacune a sa raison. Et que c'est OK aussi d'avoir envie d'arrêter d'ailleurs. Mais je trouve qu'il y a une certaine puissance dans ce qu'on peut apporter aux gens qu'on reçoit. Voilà.
Merci beaucoup pour ce que tu partages, Laurine. Je me reconnais complètement là-dedans. Et je pense que c'est en grande partie grâce à toi que j'ai pu construire aussi mon identité pro. Et justement sur ce positionnement de soignant que je trouve super intéressant et que j'avais pas forcément vu ailleurs et qui m'a beaucoup inspirée. Donc un grand merci à toi. Je suis trop contente qu'on ait pu faire cet épisode ensemble.
Ouais, c'était vraiment super. Merci beaucoup.
À bientôt, Laurine.
À bientôt, Sarah. Au revoir.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à La Parole aux Orthophonistes.